Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Abdelmalik, ce rappeur est devenu le porte-parole des banlieues, un modèle pour la jeunesse. Dans ses jeunes années, il a échappé à l'intégrisme où il était entraîné. Comment ? Eh bien, tout simplement grâce à la musique. Et qui lui a appris à avoir foi en l'être humain, à aller jusqu'au bout de ses rêves ? Juliette Gréco, à qui il a consacré un film. Ses souvenirs, ainsi que beaucoup d'autres, tout de suite dans Les Clés d'une Vie, sur Sud Radio. Bonjour Abdelmalik.
Bonjour.
Alors, d'abord, il y a plein de choses à raconter sur vous, sur votre parcours, et il y a ce nouveau livre, Réconciliation, chez Robert Laffont, dont on parlera tout à l'heure. Mais le principe des Clés d'une Vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, alors je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, c'est le 6 août 1998, votre première télé avec cette chanson.
On se débat même quand on est ivre, autour de nous le chaos, mais l'espoir fait toujours vivre triste.
Alors, c'est le groupe Nap, c'est le chant des cygnes, dans Alsace Soir, Carnet d'été, La Cité Autrement, le groupe Nap, dans le quartier de Neuf. Vous vous souvenez de cette télé ?
Ah ben bien sûr, forcément. C'était la première fois qu'on passait en tant que professionnel entre guillemets, ouais. C'est-à-dire tout d'un coup on devenait plus qu'un simple groupe de quartier ou un simple groupe de région, on devenait un vrai groupe national, et donc c'était important pour nous.
Alors c'était à Strasbourg, le quartier de Neuf, ça veut dire nouvelle ferme, ouais. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au départ ce quartier qui est un quartier des cités, en 1424, c'était un quartier où les bourgeois s'installaient.
Waouh.
C'est assez curieux.
Comme quoi, les choses évoluent.
Alors, on vous voit écrire, enregistrer avec les gamins du quartier. Et je crois que ce groupe, vous l'avez fondé au départ, Nap, avec votre frère et votre cousin.
Exactement. Et pour être plus précis, on dit NAP.
Voilà.
Voilà, pour être plus précis. Et oui, avec mon cousin Aïssa et mon frère aîné Bilal. Donc, et trois autres amis de notre quartier. Donc, on a créé ce groupe. L'idée, c'était de raconter la cité autrement. Et ouais, c'était ça.
Et votre pseudo est né de votre vrai prénom, qui est Régis.
Exactement. C'est la traduction en arabe de Régis en latin. Donc voilà.
Alors, vous êtes né à Paris, Abdelmalik, mais vous avez grandi au départ à Brazzaville pendant quelques années, où votre père était conseiller du gouvernement.
Oui, je suis né donc à Paris, dans le 14e arrondissement, et puis on est retourné donc au Congo, le pays d'origine donc de mes parents. Donc on est retourné. Et oui, mon père avait des fonctions à la fois. Il était à la fois journaliste et conseiller de différents ministres. Et on était censé retourner pour rester, oui, définitivement. Mais comme vous savez, comme ça se passe quelquefois en Afrique, les choses bougent. Et donc mon père a décidé finalement de revenir en France.
Oui.
Et c'est comme ça qu'on est revenu d'abord à Paris, puis à Strasbourg.
Oui, à Strasbourg, il n'a pas fait grand-chose. Je crois qu'il n'avait pas envie de travailler, votre père, Abdelmalik.
Ah, il était particulier. C'était une sorte de... Oui, c'était un bel homme, un peu un intellectuel, pas nécessairement prompt au travail manuel, on va dire les choses de cette manière-là. Et finalement, avec ma mère, ils se sont séparés.
Ouais, il était assez coureur d'ailleurs, je crois.
Il était bel homme, donc oui. C'était quelqu'un qui était un peu... Les choses ont évolué aussi, dans le bon sens quand même, mais à l'époque, oui.
Oui, alors effectivement, votre mère vous a élevé seule, avec vos frères et sœurs. Ça n'a pas été facile, parce qu'il y avait des dettes, il y avait des problèmes, Abdelmalik.
Oui, parce que quand mon père est parti, il ne nous a pas laissé grand-chose. Il a laissé...
Des dettes.
Il a laissé des dettes. Il a laissé des dettes et une bibliothèque.
Ah, quand même.
Oui, et il faut dire que cette bibliothèque m'a bien aidé.
Voilà. Mais votre mère disait, il y a une phrase, je crois que c'est ne pas avoir d'espoir, c'est pas la pêche.
Ouais, en fait, pour elle, le péché, on va dire, pour elle, c'était le fait de perdre espoir, fait de se dire que on n'y arrivera pas, que c'est pas possible. Et donc, du coup, elle nous a transmis ça, elle nous a transmis l'idée que le positif était possible, pour peu qu'on s'en donne les moyens.
Et les moyens n'étaient pas courants, puisque je crois qu'il n'y avait pas forcément un déjeuner, il y avait un petit déjeuner,
ouais.
Mais vous avez vécu sans vous en rendre compte au départ, Abdelmalik.
En réalité, on a vécu dans l'extrême pauvreté, l'extrême précarité, c'est-à-dire entre le Secours catholique, les Restos du Cœur. Bon, je vais pas sortir les violons et tout, puisque chacun doit traverser ses difficultés de vie, et nous on a traversé celle-là. Mais pourquoi j'en parle aussi simplement, c'est parce que ma mère nous disait toujours que il fallait pas avoir honte. Notre vie était notre vie, et puis on devait travailler à changer notre vie, mais qu'il fallait accepter les choses telles qu'elles advenaient, mais il fallait travailler à les dépasser.
Oui, travailler, et pas seulement, parce que vous commencez par dérober des friandises, et puis il y a une progression dans le côté pickpocket. Vous devenez un pickpocket de génie, paraît-il, Abdelmalik.
Paraît-il que j'étais pas mauvais, mais c'est une autre forme de travail aussi. Oui.
Faut apprendre déjà. Hein.
Faut apprendre.
Majac, c'est pas là pour vous apprendre, mais.
Oui. Mais il faut pas oublier quand même, pour relativiser quand même, on a affaire à un enfant. Un enfant et puis un jeune adolescent, et on fait des bêtises, on se forme.
Bien
il
sûr.
Se trouve que dans le contexte dans lequel j'ai grandi, qui est le contexte des quartiers populaires, ces bêtises peuvent virer au drame.
Oui, d'ailleurs vous avez connu le drame, la drogue, tout y est passé. Vous avez vu des gens mourir d'overdose autour de vous.
Ouais, j'ai l'un des problèmes importants dans mon quartier à l'époque, c'était vraiment la drogue dure, l'héroïne. Et sans compter évidemment le chômage, etc. Mais l'héroïne, la drogue dure, la délinquance des jeunes, c'était des choses importantes. Donc du coup, j'ai été confronté à la mort très tôt.
Et vous y avez échappé. Et surtout, il y a quelqu'un qui a été très important pour vous. C'est une enseignante qui vous a repéré, Abdelmalik.
Totalement. Mademoiselle Schaeffer. C'est une femme importante parce que elle m'a dit... j'aime bien dire cette formule parce que c'est réel. Symbolique, métaphorique, mais réel. Elle m'a dit que j'étais beau. Et à force de me dire que j'étais beau, moi j'ai fini par croire que j'étais beau. Et j'ai agi en conséquence. Mais tout ça pour dire, c'est la petite blague bien sûr, mais tout ça pour dire que le regard qu'on porte, c'est important le regard qu'on porte sur quelqu'un et surtout un enfant, parce que c'est ce regard qui va déterminer ce qui devient ensuite. Alors évidemment, moi je lutte contre toutes les formes de déterminisme, mais quand même.
Oui, mais en même temps, elle vous a guidé vers un collège, qui est un collège de Strasbourg, le collège privé Sainte-Anne. C'était pas évident d'y entrer pour vous, Abdelmalik.
Ouais, c'était pas évident tout simplement parce que j'avais pas nécessairement le niveau. Et ce qu'elle a fait pendant toute mon puisque je l'ai eu comme institutrice au CM1 et au CM2, elle m'a fait travailler deux fois, trois fois plus que les autres, pour que justement j'ai le niveau.
Parce qu'elle croyait en vous.
Elle croyait véritablement en moi, à tel point que lorsqu'elle a annoncé à ma mère que elle voulait me mettre dans le collège dans un collège privé, ma mère elle lui a dit on n'a pas les moyens, comment on va faire? Et elle a dit c'est pas grave, vous allez on peut s'arranger pour que vous ayez une bourse et ça va vous permettre ça va permettre à votre fils d'aller dans cet établissement là et c'est ce qui s'est passé.
Voilà. Et à l'école, coup de foudre pour les livres, pour Tchekhov, pour Sénèque, pour Camus.
Oui, mais la réalité c'est que ça a commencé dès le CM1. Un peu avant, puisque c'est comme ça que mon institutrice m'a repéré, si on veut dire ça. La passion des livres est arrivée très vite, mais c'est vrai que tout d'un coup, lorsque j'arrive à Sainte-Anne, c'est comme un enfant dans un magasin de friandises. Je veux dire, tout d'un coup, la bibliothèque était fabuleuse, les livres étaient fabuleux, les enseignants, ils étaient incroyables, passionnants. J'étais ma classe, donc on était les latinistes, donc de la sixième à la troisième, on était le même groupe d'élèves, donc une solidarité incroyable. Enfin, j'ai vécu des années incroyables, que ce soit au collège et au lycée ensuite.
Oui, alors en plus, des passions comme Camus se sont transformées, parce que vous avez fait un livre et une pièce de théâtre au Théâtre de la Ville sur Camus.
Ouais.
C'est un rêve presque.
Ah, c'est un rêve, mais en même temps, j'ai eu très tôt un rapport très particulier à Camus. Camus, je l'ai vécu comme une sorte de grand frère, comme quelqu'un qui avait vécu avant moi les choses que j'étais en train de vivre d'une certaine manière. Donc, il y a eu ce rapport très fort. Et pour moi, c'était important d'une certaine manière que de pouvoir à la fois rendre hommage à cette figure qui a été une figure tutrice pour moi, lui rendre hommage en parlant de lui, de son œuvre et de l'impact que son œuvre avait eu sur moi.
Oui, en plus c'est rare parce que moi mes souvenirs d'école c'est l'étranger et la peste, c'était d'un ennui total quand on vous le proposait, quand on vous l'imposait.
Ben, c'est assez particulier, moi j'ai quand on m'a imposé, donc puisque c'était dans le programme, l'étranger, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose, j'ai vécu ça comme un premier choc, une rencontre essentiellement esthétique, importante, mais ensuite tout de suite donc j'ai lu tout Camus dans la foulée, j'ai tout j'allais acheter tous les bouquins, etc. Et là tout d'un coup c'était fabuleux parce que cet homme à la fois venait du même milieu socio-culturel que le mien, à la fois cette idée de venir d'un quartier populaire, venir d'un endroit où il n'y a pas nécessairement la culture, etc. Et pourtant, grâce à ça, pouvoir transcender sa condition, etc., etc. Tout d'un coup, j'ai eu un rapport miroir avec Albert Camus et c'était incroyable, incroyable.
Alors, en plus, vous passez votre vie à la bibliothèque et je crois qu'à l'entrée de la bibliothèque, il y a un portrait de Guynemer, l'as de la Première Guerre mondiale, et sa devise, elle correspond un peu à vous d'ailleurs, c'était « faire face ».
Waouh ! Je savais pas que c'était ça sa devise, mais je me souviens forcément de ce portrait, c'était un portrait énorme. Faire face, oui, voilà. Faire face.
Voilà. C'est ce que vous avez toujours fait.
C'est ce que j'ai fait. Et je dis souvent que j'ai eu de la chance, et c'est ça qui est triste. Je veux dire, on devrait pouvoir faire face sans avoir de la chance. C'est-à-dire qu'on devrait être entouré, on devrait nous donner les moyens de faire face.
Oui.
Un comme moi, et Dieu sait quand même qu'il y en a de nombreux, parce que faut des Abdelmalik, il y en a femmes et hommes, il y en a une multitude, mais qui s'en sortent par chance, c'est ça qui est triste.
Voilà, la chance, mais aussi beaucoup de travail, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 2 mars 2004. À tout de suite sur Sud Radio avec Abdelmalik.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Abdelmalik. Il y a ce livre Réconciliation chez Robert Laffont, nous parlerons tout à l'heure de ce livre. Mais pour l'instant, on évoque une date, le 2 mars 2004, Abdelmalik. Ce jour-là sort un album avec cette chanson.
L'amour est universel, mais peu d'hommes saisissent le langage des oiseaux.
Le Face à Face des cœurs, c'est votre premier album. Et cette chanson, d'ailleurs, c'était avec Mila Tosi.
Ouais.
Qu'on a un peu oublié depuis.
Oui. C'est mon premier album solo, donc, ouais. Puisqu'il y avait toute l'aventure avec NAP. Oui, Mila Tosi, en fait, on était dans le même label. Et elle aimait mon travail, moi j'aimais sa voix. Et c'est mon épouse, d'ailleurs, qui a écrit son refrain. En fait, sa mélodie. Et oui, c'est vrai, on l'entend plus trop, mais je trouve que c'était une artiste vraiment talentueuse.
Alors, l'album débute curieusement par une interview de Pascal Clark.
Ouais.
C'est assez rare, ce genre de choses.
Ben, mon idée, c'était, d'une certaine manière, c'est comme si je passais chez mon psy, d'une certaine manière, ou qui me disait, et finalement, c'est la dernière séance, quelque part, parce que j'étais en rémission, d'une certaine manière. Et donc, j'ai voulu commencer. Donc, il y avait ça, mais aussi, il y a aussi cette idée de maïeutique aussi. C'est un peu Socrate qui nous pose des questions, et puis on accouche de nous-mêmes.
Voilà. Alors, cet album, bon, il a été, il s'est vendu correctement, parce qu'il y a eu...
Enfin, correctement, vous êtes gentil avec moi.
Oh, oui, non. Il y a eu 2 semaines quand même au hit-parade, c'est quand même pas mal.
Ouais.
Bon, c'est un bon début en tout cas.
Ouais,
et il y a quelqu'un qui est très important dans la construction de cet album, c'est votre maître Sidi Hamza, que vous avez rencontré 4 ans plus tôt au Maroc.
Ouais. Alors c'est important. Bien sûr, c'est donc mon maître spirituel qui nous a quittés aujourd'hui, mais enfin en 2017. Mais vraiment, c'est un être qui a bouleversé, qui a changé totalement ma vie. C'est mon rapport à lui m'a fait comprendre profondément l'amour que je devais porter à mon pays, la France, qui m'a fait comprendre pourquoi. Et justement par ce travail spirituel, par cette ouverture de la spiritualité de l'islam, qui est bien sûr une religion de paix, d'amour et d'acceptation de l'autre dans la différence. Et encore une fois, on en reviendra si vous voulez, mais on peut parler de plein de choses, mais pour comprendre ces choses, elles doivent être incarnées. Et pour moi, l'islam était véritablement incarné dans cet homme, et j'ai la chance aujourd'hui, mon maître actuel et son fils, donc la continuation, ça continue.
Je crois que vous l'avez rencontré au départ au Maroc, au milieu de 50 personnes, et qu'ensuite, une tasse de thé a été déterminante parce que vous avez pu parler avec lui et comprendre bien des choses, alors que vous étiez sur une voie très difficile, Abdelmalik.
Ah, j'étais sur une voie très difficile, oui, une voie de confusion, comme quelques jeunes aujourd'hui et moins jeunes, malheureusement, qui sont dans cette mauvaise compréhension de l'islam, où on prend l'islam comme un étendard politique et pas du tout quelque chose comme une démarche spirituelle profonde. Et c'est vraiment l'enseignement de Sidi Hamza et à présent de son fils Sidi Jamal qui m'ont véritablement ouvert les yeux, pour pas dire ouvert le troisième œil, celui du cœur.
Voilà, et donné un sens à votre vie.
Un sens, vraiment totalement un sens à ma vie et une compréhension essentielle, à savoir que on a besoin les uns des autres pour être soi.
Oui, et surtout lutter contre la haine.
Lutter contre la haine et toutes les formes de fanatisme, bien
Alors,
sûr.
Il y a une chose étonnante, un jour il vous a fait se mettre un salut militaire.
Ouais.
C'est assez curieux.
Ouais. C'était vraiment... Ça m'avait vraiment touché. Mais encore une fois, on a parlé tout à l'heure du fait de faire face. Si on a vraiment envie, il y a quelque chose de martial. Si on a envie d'avancer positivement dans sa vie, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Et souvent, dans la chose spirituelle, on parle de travail spirituel. Donc ce salut militaire avait tout son sens.
Et un salut militaire, parce que je crois que c'était un inconditionnel, il admirait le général de Gaulle.
Oui. C'est vrai que pour des gens d'une certaine génération, qu'importe dans le camp dans lequel ils se trouvaient, je pense que la droiture, le fait de se battre pour des valeurs positives, pour son pays, etc., c'est des choses qui sont importantes et constituantes d'un patriotisme, à savoir une démarche positive rapport à son pays, mais ouvert sur l'autre, bien sûr, à ne pas confondre avec le nationalisme qui est un repli sur soi. Mais cette ouverture-là, c'est-à-dire on est fier de son endroit, on est fier on accepte en tout cas son histoire dans son entièreté, mais en même temps on est dans cette démarche presque chevaleresque qui est dans l'empathie, dans le dialogue, etc., etc. Et pour lui, le général de Gaulle représentait tout ça.
Il vous l'a fait découvrir, Abdelmalik ?
J'ai envie de dire qu'il m'a fait découvrir moi-même, donc ouvert à toutes ces figures qui étaient qui sont dans cette vibration-là.
Il y a une chose qu'on sait peu sur le général de Gaulle. Quand il était adolescent, il écrivait des poèmes.
Ouais.
Et son premier poème, c'est « Vrou, qu'il fait froid ce soir et comme tout est sombre, les arbres dépouillés se dressent seuls dans l'ombre.
Wow. »
Il avait 16 ans.
Wow.
Ben après, il a totalement changé.
Il a changé, mais c'est resté un homme de lettres.
Oui, beaucoup.
Ah oui,
et
oui.
Alors, vous avez changé et vous avez fait changer le rap, finalement. Parce qu'il y a eu les trois premiers albums de Nap, avec notamment La Racaille sort un disque. Mm-hmm. C'était tout à fait autre chose, Abdelmalik.
Ah ben, en même temps, tout artiste chemine. Et ma plume a grandi, en tout cas, a évolué en même temps que moi, qui évolue dans la vie. Donc, de La Racaille sort un disque au Face-à-Face des Cœurs et tout le reste ensuite.
Alors, curieusement, le mot racaille, je me suis un peu renseigné. En fait, c'est ce mot caricaturait la bourgeoisie. Au départ, les frères Goncourt en ont parlé contre les bourgeois et Gustave Flaubert dans un livre, c'est Par les champs et par les grèves.
Ah,
ça n'a rien à voir avec La Racaille d'aujourd'hui.
C'est intéressant. Mais déjà, nous, à l'époque, lorsqu'on disait La Racaille sort un disque, l'idée, c'était de dire que ceux que vous considérez comme racailles, ces gens-là que vous pointez du doigt, sont capables de faire des choses constructives, de se mettre ensemble et de sortir un disque, en l'occurrence, qui n'est pas une mince affaire. N'était pas une mince affaire à l'époque et qui ne l'est toujours pas aujourd'hui.
Et comment vous avez fait au départ pour justement sortir un disque ? C'était pas évident ?
C'était pas évident. On s'est mis ensemble, on s'est mis en connexion avec le centre social et culturel du quartier de l'époque, on a cherché des subventions, on a fait plein de choses pour pouvoir sortir cet album.
Oui. Ouais. Et la musique vous a sauvé la vie ?
Véritablement. Mais si je devais vraiment rétrospectivement voir, je dirais que c'est la poésie qui m'a sauvé la vie. Et parce que d'une certaine manière, la musique était un support de cette poésie-là. C'était d'une certaine manière, après on pourra aller plus en profondeur, mais cette idée de poétiser son existence, de dire qu'avec des mots, on peut changer le monde. Et commencer par changer son monde. Et c'est ce qui s'est passé concrètement.
Voilà. Mais en plus, l'écriture, ça a commencé très tôt chez vous, Abdelmalik.
Oui. Oui.
Dès l'école.
C'était assez particulier. J'étais le genre de gamin qui avait un journal intime et qui disait, voilà, aujourd'hui j'ai fait telle chose. Et je me souviens, c'est quand mon frère aîné a trouvé ce journal intime. Il me dit, mais au lieu de d'écrire comme ça dans ton coin, rejoins-nous et faisons de la musique ensemble. Et c'est comme ça que tout a commencé. Par la poésie, encore une fois.
Et il y a sur cet album une chanson importante, c'est que Dieu bénisse la France.
Derrière les apparences, je me suis éteint, mon extinction. Sur ce champ infini de la mémoire.
Avec Ariel Wiesman, c'est ça qui est étonnant. Comment c'est né cette histoire-là ?
Ben, en fait, Ariel Wiesman, il fait partie de ces gens qui a travaillé dans une radio pionnière. Sur le hip-hop qui passait vraiment des rappeurs à l'époque où le rap était, comme on dit, underground. Et donc c'est une vraie figure et je l'ai rencontré par on avait des amis en commun et je lui ai dit ça serait bien si tu venais sur mon disque d'une certaine manière, tu bouclerais la boucle et on s'inscrirait j'ai presque envie de dire dans le patrimoine en termes d'histoire du hip-hop. Et il a trouvé ça marrant et il s'est retrouvé sur ce disque
et ça s'est fait. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'au départ, bon, vous êtes intégriste, vous prêchez de ville en ville, Abdelmalik, et puis un jour il y a un problème, c'est que des fans vous reconnaissent.
Ah oui. Ouais, j'étais, encore une fois, vous voyez, c'est cette jeunesse-là où on confond les choses, on confond les plans. D'un côté, j'avais une vision comme ça arrêtée, à la fois sur la, où je confonds la spiritualité et finalement la politique, etc. Et en même temps, paradoxe, mon groupuscule interdisait la musique, moi je faisais de la musique quand même.
Caché, bien sûr,
et je me retrouve comme ça, où des gens me reconnaissent, me demandent des autographes. Et là, j'étais mal ce jour-là.
Et alors, il a fallu faire un choix.
Il a fallu faire un choix. Mais ce qui est beau, c'est que malgré cette vision un peu finalement adolescente, arrêtée comme ça, j'avais quand même des gens autour de moi, et notamment ma mère, puisqu'on a parlé de ma mère, des gens qui ont été toujours dans l'ouverture, dans l'acceptation des autres, dans la compréhension, dans l'écoute et le dialogue. Et je me suis retrouvé comme ça dos au mur, et forcément quand on est dos au mur, c'est nos références les plus importantes qui nous font agir de manière réflexe, mais c'est des réflexes finalement qui sont salvateurs pour le coup, et j'ai pensé à ma mère et je me suis dit, on va opter pour la poésie et l'ouverture.
Et vous l'avez fait, on en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 17 octobre 2008. A tout de suite sur Sud Radio avec Abdal Malik.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Abdal Malik. Alors ce livre Réconciliation, on en parlera tout à l'heure, c'est chez Robert Laffont, il est important. 17 octobre 2008, alors ça vous dira peut-être rien, mais si je vous dis que ça se passe à Célestat et que vous recevez le prix d'honneur de la Fondation Action Alsace, oui. Je pense que c'est quelque chose d'important pour vous symboliquement.
Très important. L'Alsace est mon pays, c'est-à-dire c'est l'endroit où véritablement je suis devenu un homme, mais c'est aussi l'endroit où j'ai appris d'une certaine manière une vision œcuménique des choses, où j'ai appris le dialogue interreligieux, où j'ai découvert la mystique rhénane, où mes amitiés les plus profondes, mes amis proches sont là, ou ceux qui ne sont plus là. En fait, c'est vraiment à chaque fois que je retourne en Alsace, j'ai mon cœur qui bat comme ça parce que c'est un endroit. Encore, c'est mon pays véritablement. Vous savez, il y a eu ça il y a quelques années. Je suis allé pour une tournée au Japon et j'ai été reçu par les Alsaciens du Japon.
Il y en a.
Eh oui. Comme un donc c'était fabuleux. Et la même chose à New York. Les Alsaciens de New York, la communauté alsacienne de New York a voulu me voir et m'a reçu et c'est fabuleux parce que pour moi, oui, véritablement l'endroit où on grandit, on doit beaucoup à l'endroit où on grandit et c'est vrai que l'Alsace m'a porté et continue à me porter et donc voilà.
Alors ce prix Célestat, c'est une ville d'art et d'histoire maintenant qui est c'est attribué par le ministère de la Culture.
Ouais.
On défend l'histoire, ça a donc été un moment fort et émouvant, ouais. Et je pense qu'un autre moment fort et émouvant pour vous, Abdal Malik, c'est les 30 ans du Centre culturel de Neuhof.
Ah oui, c'est important, je vous parlais tout à l'heure quand on a monté notre groupe, les financements et tout ça, le Centre social et culturel, que ce soit son premier directeur qui s'appelait Driss Ajbali et son directeur ensuite Koutir, c'est des gens qui, qui nous ont aidés à grandir, qui nous montraient une direction. Après, on la prenait pas nécessairement, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est des gens qui nous expliquaient qu'on pouvait faire ce qu'on voulait de notre vie si on s'en donnait les moyens, si on se battait, etc. C'est fabuleux. Encore une fois, c'est l'Alsace, c'est mon pays, c'est là où mes racines ont pris corps d'une certaine manière. Donc voilà, l'Alsace pour moi, c'est important.
Oui, mais qu'est-ce qu'on ressent quand 30 ans après, on se retrouve dans ce lieu qui a été celui de notre enfance et qu'on est fêté et qu'on fête ce lieu? Qu'est-ce qu'on ressent, Abdal Malik?
À vrai dire, c'est bouleversant en vrai. C'est-à-dire que c'est quand même un endroit où j'ai fait les pires, dans les alentours, où j'ai fait les pires bêtises, où j'aurais pu mourir comme d'autres. Et puis, il s'est passé ce que le destin fait. Que finalement je transcende ma condition, je deviens l'homme que je suis et d'une certaine manière se retrouver là pour moi ça a une forte valeur symbolique parce que ça veut dire que si quelqu'un comme moi peut faire ce parcours, alors n'importe qui peut le faire et pour moi c'est ça qui était important, c'est d'une certaine manière de continuer à être une sorte de donneur d'espoir et le fait 30 ans après de se retrouver là, de se retrouver célébré et fêté là, ça voulait dire à tous les gamins qui étaient en train de me regarder que vous aussi dans 30 ans vous pourrez être fêté et célébré ici et donc c'était important pour moi.
Vous êtes un exemple pour la jeunesse à un moment où elle en a besoin en plus, ça faisait le manique.
En tout cas, moi dans ma vie je me lève pas en disant je vais être un exemple ou un modèle, mais de fait, j'en suis un et c'est quelque chose que j'assume pleinement. Et donc voilà, donc pour moi, c'est un honneur que de pouvoir donner d'espoir à des jeunes filles, des jeunes garçons et même des adultes, de pouvoir donner de l'espoir, pour moi, c'est un honneur véritable.
Alors, tout a commencé quelques années plus tôt avec cet album.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave.
Alors, le détroit de Gibraltar, faut le savoir, c'est une déformation d'un mot arabe, je pense que vous le savez, qui c'est Jabal Tariq, ce qui signifie la montagne de Tariq.
Totalement.
Et c'est peut-être là l'origine de ce titre, non ?
Non, en fait, l'origine de ce titre, je connaissais l'origine, on va dire, étymologique et son histoire, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'était cette idée que vous avez évoquée brièvement tout à l'heure, cette idée d'homme pont, homme passerelle. C'est-à-dire comment cet endroit, ce petit bout de terre, donc finalement qui relie deux continents finalement, qui est comment chacun de nous on allait devenir, on allait devenir des femmes et des hommes qui font du lien, des femmes et des hommes qui au lieu de séparer rassemblent, des femmes et des hommes qui travaillent justement à ce qu'on puisse faire peuple, qu'on puisse avancer tous ensemble. Et symboliquement, en appelant mon album Gibraltar, c'est ça. Et en même temps, concrètement, c'était aussi la rencontre de plusieurs styles musicaux, du rap, de la poésie, du slam, du jazz, du rap, de la chanson, tout ça pour encore symboliser concrètement cette idée de faire du lien qui est pour moi fondamentale.
Oui, c'est-à-dire que vous avez dû déconstruire pour reconstruire.
C'est ça, c'est-à-dire que j'ai été un peu inspiré par ces philosophes de la déconstruction, justement, puisqu'on on parle de ça. L'idée, c'était de dire, voilà, qu'est-ce que le hip-hop, qu'est-ce que ça implique, d'où ça vient, comment ça se construit, etc. Donc je décortique tout ça, et en décortiquant, je fais cet album, je fais du lien, je rapproche avec ces racines à la fois poétiques et à la fois musicales que sont le jazz, et puis je ramène aussi à nous autres en France, avec finalement cette tradition des trouvères et des troubadours, ces villons, plus loin la musique populaire, on parlait tout à l'heure de traîner, enfin, tout ça. Et tout ça dans un album qui s'appelle Gibraltar.
Voilà. Et avec, parmi les accompagnateurs, l'accordéoniste Marcel Azola.
Marcel Azola, j'ai eu la chance de travailler avec lui, et même sur un morceau, j'ai eu l'extrême honneur de pouvoir dire chauffer Marcel. Évidemment, je l'ai vous voyez à la suite donc de Jacques Brel. Et puis il y a une figure importante aussi dans cet album qui est Gérard Joannès.
On va en reparler bien sûr.
Fut donc le co-compositeur, en tout cas l'un des compositeurs et le pianiste de Brel. Et c'était une amitié qui a duré près de 15 ans.
Voilà. Alors, j'en reviens à Chauffe-Marcel, parce que l'origine de Chauffe-Marcel, on s'est toujours posé la question pourquoi Brel, dans Vesoul, dit Chauffe-Marcel. Ouais. Il y a deux hypothèses. Marcel, c'est le soleil dans le nord. Ils étaient tous les deux du nord. Et il y avait Chauffe-Marcel, une chanson des Charlots, qui amusait à la fois Azola et Brel à l'époque.
Ouais.
C'est les deux origines de l'hypothèse.
Ouais.
Et Brel, justement, ben, vous l'évoquez dans une chanson.
Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres.
Et ça, cette chanson Abdel Malik, elle fait penser à ces gens-là.
Bien sûr.
Une chanson qui est un album de 65 qui est le plus noir de Brel. Pourquoi ce lien avec cette chanson et Brel ?
Brel est pour moi en musique ce que Camus est en littérature. C'est-à-dire que pour moi c'est un modèle absolu, une sorte de référent artistique puissant. C'est un MC avant l'heure, c'est un rappeur avant l'heure. C'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, c'est quelqu'un qui dit fort ce qu'il pense et qui est entier. Et je voulais vraiment lui rendre hommage à Brel. Je voulais rendre hommage à Brel l'artiste. Et puis ce showman, c'est incroyable. Ces petites histoires qui sont des nouvelles, comme ça, des petites nouvelles ou des petits poèmes qu'il raconte avec une puissance. Avec voilà, pour moi, c'était ça reste l'un de mes référents absolus.
Oui. Et sur scène, Brel changeait deux fois de chemise tellement il transpirait en 45 minutes. C'était incroyable.
C'était incroyable.
Alors cet album Gibraltar, 250 000 exemplaires et surtout des récompenses, le prix Constantin, qui est l'équivalent du prix Goncourt de la chanson, vous l'avez, et vous êtes le premier rappeur à l'obtenir, Abdel Malik.
Ouais, ça a été quelque chose. Sans rentrer dans les chiffres et tout ça, c'est un peu plus que 250 000.
À l'époque, c'était 250 000.
Même si ce ne sont pas les chiffres qui déterminent la qualité d'un projet artistique et d'un artiste, et c'est important, on y reviendra peut-être.
Ouais.
Mais j'ai eu... C'est fabuleux, c'est un album qui a parlé à beaucoup de gens, qui continue à parler à beaucoup de gens, et ça, c'est fabuleux, parce que c'est ma démarche, elle est... Vous savez, moi, je me considère véritablement comme un artiste, et un artiste véritable, de mon point de vue, en tout cas, sa démarche, c'est pas du simple divertissement, c'est autre chose. Il essaye d'amener autre chose, et quand on amène cette autre chose, on assume cette autre chose et que ça a de l'écho, c'est assez fabuleux.
Voilà. Alors en plus, vous recevez une victoire de la musique, l'album de musique urbaine de l'année, à l'époque où la musique urbaine n'est pas aussi connue qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore une référence. Et vous étiez nommé, je crois, avec Diams et Joe Star cette année-là. Et vous devenez incontournable à la télévision. C'est-à-dire qu'on vous voit partout. Il y a même vous devenez le porte-parole des banlieues. Il y a une émission avec Bernard Tapie, Jean-François Copé et Arlette Chabot. Vous êtes là.
Enfin, je deviens le porte-parole des banlieues.
C'est ce qu'on dit à l'époque.
Ouais, c'est ce qu'on dit à l'époque. Mais moi, je suis le porte-parole de personne, enfin de moi-même, de ma personne. Et il se trouve que j'ai une histoire, il se trouve que les banlieues, les quartiers populaires, c'est d'où je viens et d'où sont les personnes qui me sont le plus proches, etc. Donc forcément, à un moment donné, on entend des choses et on a envie de rendre justice, un minimum. Donc, Donc je suis là.
Voilà. Et il y a une chose qui vous a beaucoup surpris, c'est une grand-mère de 80 ans qui a écouté votre disque et qui vous l'a écrit.
Ouais, c'est fabuleux ça. Et puis il y en a eu d'autres. C'est incroyable parce qu'encore une fois, lorsqu'on parle avec son cœur, on parle de tous et à tous finalement. Donc l'émotion n'a ni âge, ni couleur de peau, ni sexe, ni quoi que ce soit. On est des êtres humains. Et voilà.
Alors, vous soutenez aussi l'écriture et la littérature. Je crois qu'il y a un site internet qui s'appelait BeBack 2008, un site communautaire, que vous avez soutenu. C'était important.
Ben, en fait, de manière générale, tous ceux qui mettent en avant l'importance de l'écriture, l'importance de l'école, l'importance de la littérature, le fait de magnifier finalement les valeurs de notre pays, qui permettent justement de faire du lien, du bien vivre ensemble, etc., je soutiens.
Oui, il y a eu la dictée, je crois qu'un jour, au collège de la Vanzenau en Alsace, vous avez fait une dictée,
à la
manière de Bernard Pivot.
J'ai fait ça, et puis je l'ai fait aussi l'émission La Dictée, réellement, il y a 2 ans, c'est moi qui ai fait... Il y a deux ans qui a fait la dictée. Oui, c'est un peu un rêve comme ça, la dictée de Pivot. Et tout d'un coup, on vous dit, venez, vous allez faire la dictée à votre tour, c'est quelque chose. Moi, je les ai fait plusieurs fois, les dictées de Pivot, et donc c'était honneur extrême que de pouvoir la faire également. En tout cas, lire le texte de la dictée en question.
Oui, et puis il faut défendre la dictée, parce que c'est quelque chose qui est tombé en désuétude pendant quelques années.
Ouais,
fut un temps où c'était 5-0 à l'école, c'est fini, ça.
Ouais, c'est ça.
Mais ça, c'est pour vous, c'est un combat aussi à mener.
C'est un combat non seulement à mener, mais un combat que je mène. Le fait de, vous savez, depuis quelques années, différents spectacles que je fais, je monte sur scène avec un livre. Et pourquoi je monte sur scène avec un livre et que je ne suis pas simplement à, entre guillemets, à réciter mes textes, mais à les lire pour dire, parce que finalement, apprendre un texte par cœur et venir le dire sur scène, tout le monde le fait, tout le monde peut le faire. Mais venir avec un livre et lire à chaque fois, et à chaque fois lire autrement, en musique, etc., et ben c'est aussi le fait de magnifier non seulement le livre, mais la chose écrite. Donc, voilà. Donc c'est important, oui, vraiment.
Et vous avez lutté contre l'illettrisme avec un collectif, Bénis Nasnen,
ouais.
Et il y a cette chanson, Spleen et Idéal.
Regarde à travers la fenêtre, mon HLM, notre monde n'est-il pas celui de George Orwell, mes rêves pour littéraire et ma vie, une prisonnière d'un environnement.
Alors il se trouve qu'en plus, Bénis Nasnen, je crois que ça vient de l'oriental marocain.
Ouais, ça vient d'une tribu de l'oriental marocain, une tribu très fière qui a défendu non seulement ses valeurs, mais des valeurs universelles, mais aussi sa terre, son pays, etc. Donc l'idée, je suis très proche du Maroc et j'étais en admiration devant ce peuple-là qui me faisait à plein d'égards penser à la fois au peuple alsacien et à la aux origines de ma mère, etc. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui faisaient corps et faisaient sens. Donc on a appelé ce collectif-là Bénis Nasnen dans cette idée-là, mais aussi dans la possibilité de donner leur chance à des jeunes artistes, des jeunes rappeurs, les mettre en avant également, les mettre en lumière et célébrer les mots, célébrer la poésie comme toujours et la littérature.
Voilà. Et des rappeurs que vous avez formés, que vous avez choisis, parce que c'est important.
Exactement. Formés, choisis, produits. Et c'est des artistes, notamment ce rappeur Matteo Falcone qui est une plume incroyable, qui est un artiste incroyable. Et encore une fois, la musique pour transcender sa condition, qui a vécu des choses très difficiles, et par la musique, transcender ça, par l'écriture cathartique, transcender ça également et devenir l'homme merveilleux qu'il est aujourd'hui. Voilà, c'est comment l'art et comment la poésie sauve.
Voilà. Et l'art réconcilie, on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 14 janvier 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Abd al-Malik.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Abd al-Malik. 14 janvier 2021, sortie de ce livre, Réconciliation chez Robert Laffont. Alors ce livre, c'est important pour vous parce que c'est un cri d'alarme, Abd al-Malik.
Ouais, c'est un cri d'alarme. J'ai écrit ce livre à un moment particulier. J'ai eu le Covid et c'est vrai que prendre conscience concrètement de sa propre finitude, finalement penser à la mort, mais quand ça nous concerne en propre, c'est assez particulier. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit, comme plein de Françaises et de Français qui ont eu cette maladie, et certains même qui finalement ont été atteints fatalement par cette maladie-là, je me suis dit, dans le temps finalement qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait pour travailler à être ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait finalement pour faire positivement France ? pour faire positivement peuple tous ensemble. Et donc voilà, j'ai voulu parler de ça. C'est des différents essais, où c'est des différentes réflexions poétiques sur à la fois des propositions et à la fois dans le fait de dire que nous autres artistes, nous autres poètes, on est, je pense qu'on est véritablement important, parce que notre démarche, c'est de poétiser le monde, c'est-à-dire chercher le beau, chercher la beauté, et chercher le beau, chercher la beauté, c'est chercher l'harmonie avec l'autre, avec les autres, et comprendre qu'il est essentiel aujourd'hui de remettre l'humain au centre. Et c'est ce dont traite de manière générale cet ouvrage.
Voilà, et aussi chercher l'espoir, parce que l'espoir. On doute de l'espoir aujourd'hui, et ça vous défendez cette idée dans ce livre d'Almanie.
Véritablement, je pense qu'on est condamné à espérer. Il faut espérer absolument, parce que par l'espoir on peut construire. Le fait essayer de vous savez, c'est cette idée de se dire ok, voilà une chose négative qui arrive, comment cette chose négative je vais la transformer en opportunité. On vit ce moment qui est très particulier, ce moment douloureux, ce moment sombre lié au Covid, etc. Mais comment on va transformer ce moment en quelque chose de positif, parce qu'on est on est empêché, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Alors comment on va travailler à remettre non seulement l'humain au centre, mais à parler d'empathie, à être dans une démarche d'ouverture par rapport aux autres, etc. Comment on va être la meilleure version de nous-mêmes? Toutes ces choses là, c'est important, dans ces moments difficiles, transformer cette difficulté en opportunité véritable.
Et dans votre observation, dans ce livre Réconciliation, Abdelmalik, vous dites aussi que les décisionnaires évoluent dans un monde qui n'est pas réel.
Ben, le problème, c'est encore une fois, je pense que tout le monde, en tout cas, c'est comme ça que je prends les choses, tout le monde est de bonne intention, tout le monde a envie de faire des choses positives, mais le problème, c'est lorsqu'on est pris dans la machine du pouvoir, d'une certaine manière. Si on ne prend pas garde, et je ne suis pas le premier à dire ça, le philosophe Alain en parle également, si on ne prend pas garde, on se retrouve dans quelque chose où on est dans l'entre-soi et on est en décalage avec ce que vit le peuple réellement, ce que vivent les gens des quartiers populaires, ce que vivent les gens en région, en France, ce que vivent les gens des villages, etc. Et c'est important à chaque fois de se rappeler qu'on nous a donné mandat. Et si on nous a donné mandat, c'est qu'on attend quelque chose de nous. On attend pas seulement une simple représentation, on attend que les actes puissent parler plus fort que les mots. Et pour moi, il y a une maladie, la maladie de notre époque profonde, qui est celle de la com, où on dit des choses et on n'est pas en phase avec ce qu'on dit. Et il faut lutter contre tout ça. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est pas pointer du doigt, c'est pas une critique négative, ou en tout cas, c'est une critique constructive. C'est le fait de dire qu'on peut pas, lutter contre l'injustice et être soi-même injuste. On peut pas parler d'égalité et toujours être dans. On peut pas parler de ces valeurs universelles et ensuite qu'on se retrouve par exemple avec la problématique des migrants ou des exilés, agir de manière inverse aux valeurs fondatrices de ce pays. Donc voilà, c'est de tout ça que j'ai envie de parler.
Et il y a un manque de bon sens évident que vous évoquez dans ce livre.
Ouais, il y a un vrai manque de bon sens. Encore une fois, les grandes figures, nos grandes figures dans notre histoire, parce que vous savez, et je le dis à plusieurs reprises, que mon mantra, c'est préserver le patrimoine et cultiver la modernité ou la post-modernité à choisir. Mais il y a cette idée de dire qu'il y a des grandes figures au travers de notre histoire qui ont été de près ou de loin en connexion avec des artistes, s'ils n'ont pas été même eux-mêmes, et qui ont permis d'apporter la grandeur à notre pays, d'apporter la grandeur à l'Europe, et de proche en proche, d'apporter la grandeur humaine des valeurs universelles mondiales, d'une certaine manière. Et donc c'est ça que j'ai envie de rêver. J'ai envie de dire que on parlait du général de Gaulle tout à l'heure, il y a eu la guerre qui a permis de faire naître ce grand homme. Et ben là, on vit une autre guerre. Et cette guerre-là, je demande à toutes les femmes politiques, à tous les hommes politiques, de faire preuve, acte de grandeur, et de permettre cette réconciliation, de nous réunir à nouveau les uns les autres, de transformer notre pays en agora, en forum où on dialogue, où tout le monde se sent écouté, où personne n'a le sentiment d'être mis au bas-côté de l'histoire, et qu'on puisse avancer tous ensemble, et qu'on puisse faire tous ensemble positivement France.
Oui, et il y a un autre problème, c'est que vous parlez du passé, aujourd'hui, la jeune génération ne connaît pas son passé, et c'est un problème pour préparer le futur.
Mais elle ne connaît pas son passé parce que justement, on l'encourage pas à connaître son passé. On ne fait pas des choses... aujourd'hui, moi, j'ai énormément de respect pour les enseignantes et les enseignants. Vous savez que c'est grâce à eux, ils m'ont sauvé la vie. C'est grâce à eux que je suis là en train de vous parler. Mais encore une fois, il faut les aider, ces gens-là. On peut pas les laisser comme ça. Il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui ont l'impression d'être seuls, qui ont l'impression de pas être soutenus à la fois par leur ministère de tutelle, à la fois par les opinions publiques, etc. Il faut les aider, il faut leur donner les moyens. Aujourd'hui, on est par rapport à ce qu'on a. alors que finalement, c'est le règne de la quantité, alors que c'est pas ces valeurs d'une certaine manière matérialistes, etc., qu'on doit inculquer, mais ces valeurs de remettre cette idée de l'esprit au cœur des choses. Et qui peut nous amener ça mieux que les enseignants? Qui peut nous amener ça mieux? Où on peut apprendre ça de manière la plus puissante que dans ces temples laïques que sont les écoles? Donc voilà, il s'agit de comprendre que c'est le savoir, l'éducation qui permettra cette possibilité de devenir qui on est réellement et d'être à la hauteur de nous-mêmes.
Et vous dites dans ce livre Abdelmalik, Réconciliation, qu'on est à une fin de société, la première fois depuis la Révolution française.
Ben oui, parce que jusqu'à présent, si vous voulez, on avait ces valeurs-là, les valeurs portées par la Révolution française, ces valeurs liées aux valeurs à la fois universelles, liées à des concepts, le concept républicain, démocrate, etc., toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, notre plus grand legs, de mon point de vue, c'est la sacro-sainte laïcité, ce qui permet justement, et je dis sacro-sainte à dessein, sacro-sainte laïcité, parce que c'est quelque chose qui doit être vu de cette manière-là. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, on se retrouve où on n'arrive pas à revivifier ces valeurs-là, où on n'arrive pas à faire en sorte que ces valeurs deviennent le liant d'une société de plus en plus fracturée. Et c'est pour ça que je dis que si on a vraiment envie de vivre l'expérience républicaine, si on a vraiment envie de vivre l'expérience des valeurs dont on est en train de parler, elles doivent être incarnées dans des êtres. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer la France incarnée, en tout cas, qui a été incarnée pour moi, qui est Juliette Gréco. Et je voudrais que chacun puisse rencontrer sa France incarnée pour comprendre la valeur profonde qu'a notre pays et ses institutions.
Et il y a une chanson de Juliette Gréco qui a été écrite par Guy Béard dans un café à Saint-Germain-des-Prés en 1961. Cette chanson, le monde entier la connaît.
Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés.
Guy Béard l'a écrite pour Juliette Gréco.
Magnifique.
Et vous vous inquiétez aussi savoir s'il y a un après, parce qu'on est quand même dans une époque où l'après, il n'est pas évident, et pas seulement dans les quartiers populaires, Abdelmalik.
Totalement. Il y a un vrai problème qui concerne notre pays, qui concerne l'Europe et qui concerne le monde, finalement. L'idée, c'est de dire que la France, être français, ça veut dire quelque chose. Mais ça veut dire quelque chose pas que dans des paroles, pas que dans des beaux discours. Ça veut dire quelque chose dans des actes, dans des attitudes, excusez-moi du terme, mais des attitudes qui devraient être des attitudes chevaleresques, de mon point de vue. Ça fait partie de notre histoire. Et aujourd'hui, si on n'a pas des femmes et des hommes qui ont le courage, à la fois dans un volontarisme politique, mais j'ai envie de dire juste le courage de magnifier et d'incarner ces valeurs-là, eh ben en fait, on va crever.
Voilà. Et Gréco est un exemple, parce que Gréco, c'était une star au Japon. Il y a un café, une rue qui porte son nom à Tokyo. Et comment l'avez-vous connu au départ, Juliette Gréco, Abdelmalik?
Ah, moi, c'est notre histoire, elle est incroyable. C'est-à-dire, imaginez-vous, j'étais en train de terminer cet album Gibraltar, dont on parlait tout à l'heure. C'est une histoire que j'aime raconter. J'étais en train de terminer cet album. C'était un soir, je suis chez moi, je zappe à la télé, je tombe sur Juliette Gréco. Juliette Gréco, un concert retransmis à la télé. Et ensuite, derrière, on voit son époux, Gérard Joannès, donc qui parle de sa manière de travailler avec Juliette, comment il travaillait avec Brel, etc. Le lendemain, je suis à ma maison de disque et je dis vraiment, j'ai vu ce documentaire incroyable avec Gréco, enfin c'était magnifique et tout. Mon rêve, ça serait de pouvoir travailler avec eux. Il y a une jeune femme qui travaillait dans cette maison de disque, elle me dit, ben tu sais, moi dans une autre vie, j'ai été ingénieur du son, j'ai travaillé avec Juliette, si tu veux, je fais le lien. Elle fait le lien, elle fait passer ma musique, Juliette accepte de me rencontrer, je vais chez elle, ils habitaient à l'époque, Gérard et elle, donc ils habitaient dans l'Oise, je toque à la porte, Juliette Gréco m'ouvre la porte et on s'est plus quitté pendant 15 ans.
Et il y a même eu une chanson, Roméo et Juliette.
Il s'appelle Roméo.
Elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette. Elle approche, son visage se rétracte.
Une complicité de 15 ans jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous êtes allé à Ramatuelle où elle nous a quittés et sa mort a été pour vous un choc total. C'est la fin d'une époque pour vous, Abdelmalik.
Ouais, c'est à la fois la fin d'une époque, mais encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, ma démarche de vie, c'est comment les catastrophes, les moments difficiles, comment on les change en opportunités. Et c'est vrai que le fait que Juliette disparaisse, ça a été quelque chose de bouleversant pour moi, parce que, vous savez, c'est le genre de personne, on a l'impression qu'elle partira jamais, qu'elle sera toujours là. Et je me dis, comment, moi, en toute humilité, je peux être à la hauteur de la personne qui était Juliette. Comment je peux être dans la continuation de quelque chose, d'un certain être au monde. Et d'une certaine manière, j'invite toutes les Françaises et tous les Français à se poser cette question-là et à essayer d'agir en conséquence. Donc, Juliette, à la fois, il y a cette profonde tristesse rapport à son absence, mais en même temps, cette idée de dire que voilà, on cherche un modèle, on cherche des référents, il y en a quelques-uns. Et près de nous, regardez, il y avait cette femme incroyable. On parle de liberté, Juliette Gréco incarnait la liberté. On parle de lutte contre toutes les formes d'injustice, Juliette incarnait ce combat-là. On parle de poésie, elle incarnait ça. On parle de l'élégance à la française, etc., etc. Juliette Gréco.
Voilà. Alors, il y a aussi, dans votre livre, une évocation qui est importante, c'est que vous pensez que le monde sera sauvé par les poètes. Il y a quelqu'un qui l'a chanté, ça s'appelait Les savants, les poètes et les fous, c'est Yves Duteil.
Pas besoin d'une boule de cristal pour voir que la terre tourne mal. Pas besoin non plus.
Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson.
Non, je ne la connais pas.
Ben écoutez-la, parce qu'il raconte exactement ce que vous dites. Wow. Le monde sera sauvé par les poètes, les savants et les fous.
Ouais, véritablement. Parce que tout simplement, parce qu'on n'a pas peur de nos émotions. Parce que tout simplement, on n'a pas peur de la vie. On n'a pas peur d'être honnête. On n'a pas peur de dire, lorsqu'on n'arrive pas, je n'y arrive pas. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on est dans un monde qui a besoin de vérité. Et qui a besoin de femmes fortes, d'hommes forts, mais pas dénués de faiblesse, mais des gens qui sont capables, lorsqu'ils tombent, ils se relèvent, ils reconnaissent et puis ils avancent. Et surtout, des gens qui n'ont pas peur de se mettre en connexion les uns les autres et de se dire que c'est ensemble qu'on changera les choses, véritablement. Qui ne réfléchissent pas tout simplement en termes de carrière ou en termes d'argent, mais qui réfléchissent en termes d'esprit, voilà. En termes d'amour et d'empathie.
C'est-à-dire que le titre de votre livre résume ça, réconciliation. Pour vous, l'avenir de la France et du monde, c'est la réconciliation.
C'est la réconciliation. Mais encore une fois, avant toute réconciliation, on doit se réconcilier avec soi-même, déjà. Savoir que la personne la plus importante, c'est nous-mêmes. On doit s'aimer comme notre meilleur ami. Et c'est seulement en paix avec soi-même qu'on pourrait être en paix avec les autres. Et pour pouvoir véritablement être en paix avec soi-même, on doit être reconnu dans notre singularité, dans ce qu'on est. Donc il y a cette démarche-là, cette réconciliation avec soi-même, la reconnaissance. Et puis on pourra tous ensemble à nouveau faire peuple au 21e siècle, aujourd'hui,
et
maintenant.
Et vous œuvrez pour ça. Il y a les chansons, il y a les livres, il y a les films. Vous continuez, vous allez vous battre pour ça.
Je me bats pour ça, en toute humilité, le combat est tous ensemble, parce qu'on est ensemble. C'est ça qui est important. Bien sûr, il y a notre individualité, bien sûr, il y a nos singularités, mais c'est important de comprendre qu'on doit, entre guillemets, la jouer collectif, tous ensemble, et se nourrir des valeurs qui sont portées par notre pays, qui sont portées par l'Europe, qui sont portées par toutes les valeurs universelles qui concernent le monde dans son entièreté.
Et la culture.
C'est la culture. En réalité, regardez, on se plaint de telles choses, il y a trop de violence, il y a trop de trucs, etc., etc. Mais toutes ces choses négatives, c'est parce qu'on met ça en lumière, on fait la culture de la violence. Alors faisons une contre-culture, faisons la culture de la paix, faisons la culture de l'amour, faisons la culture du dialogue.
Eh ben c'est exactement ce que vous racontez dans ce livre Réconciliation, du buzz positif, ce livre chez Robert Laffont. Merci Abdelmalik de vous battre pour ceci, c'est l'important. Merci pour nos enfants. Merci et pour nos petits-enfants. Et vous revenez quand vous voulez dans Les Clés d'une Vie, parce que vous avez encore plein de choses à dire.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.